Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Il fut pendant plusieurs années l'une des personnalités préférées des Français. Haroun Tazieff s'était fait connaître notamment par un film, Les Rendez-vous du Diable, tourné lors de plusieurs expéditions volcanologiques à travers le monde. Sorti en 1959, c'est lui qui fit de son auteur une vedette. Quelques mois après sa sortie, le film fut adapté sous forme de livre, et cette année-là, José Pivin recevait Tazieff dans son émission « Tous les plaisirs du jour sont dans la matinée ». Le scientifique y racontait ses souvenirs d'enfance, comment était né son goût de la montagne, et partageait, de sa voix chaleureuse et de son merveilleux accent, sa passion pour les volcans. Tous les plaisirs du jour sont dans la matinée avec Haroun Tazieff, une émission diffusée pour la première fois le 21 novembre 1959.
Les plaisirs du jour sont dans la matinée. Une émission imaginée et réalisée par José Pivin qui présente aujourd'hui une matinée avec Haroun Tazieff. Des extraits des livres de Haroun Tazieff, L'eau et le feu et Les rendez-vous du diable seront lus par Julien Berthaud et Catherine Georges. Prise de son René Cambien, assistant de production Jean-Pierre Collat.
Cette heure de la matinée que nous allons passer avec Haroun Tazieff nous rapprochera aussi bien des paysages lointains que des hommes qui souvent nous paraissent d'un monde inaccessible et que pourtant un simple sourire peut placer brusquement à une portée de voisinage. Haroun Tazieff, pour vous rapprocher d'abord vous-même de nous, voulez-vous nous parler de votre enfance ?
Mon souvenir le plus lointain, je crois que c'est une plage au bord de la mer Caspienne. En Finlande, qui à l'époque appartenait à la Russie, et on allait passer l'été, je me souviens, d'un tout petit mioche qui grouillait dans le sable, et il y avait de magnifiques petits cailloux transparents et colorés, que je suppose être des quartz roulés par la mer. Et je devais avoir 2 ans, 3 ans, et je m'amusais énormément à collectionner ces petits cailloux. Après, je me souviens du Caucase, où ma mère, qui était veuve depuis 14 ans, m'a emmené en 17. Nous habitions à Tiflis et nous allions passer l'été dans un lieu de villégiature qui s'appelait Borjom, qui est une espèce de ville d'eau. Et en face, il y avait, je me souviens, de grands pics neigeux, dont l'un était le Casbec, qui est à peu plus de 5000 mètres. Et peut-être de là date mon amour des montagnes. Je suis resté là jusque 6 ans, 6 ans et demi. Après ça, c'était la grande famine en Russie, c'était les années 20. 20-21, et je me souviens du pain qui était très noir et très collant, qui sentait le pétrole. Ma mère, pour gagner notre pain, justement, elle enseignait à l'université de Tiflis, et puis alors le soir, elle cousait nos vêtements, et elle faisait même nos chaussures. Et il paraît, moi je m'en souviens pas, mais enfin c'est devenu légendaire dans la famille, c'est que quand on me demandait ce que ma mère faisait, je disais, ben, elle est professeure et cordonnier. Je ne voyais pas la formidable chose qui était en gestation. À ce moment-là, c'était les suites de la guerre civile, c'est-à-dire la famine et la désorganisation avant que la réorganisation ne s'amorce. Enfin, elle s'amorçait dans certaines parties, mais là-bas, c'était encore très, très chaotique, comme je puis m'en rendre compte depuis. Alors, ma mère s'est décidée à émigrer et nous sommes venus ici. D'abord à Paris, puis à Bruxelles, où ma mère avait fait ses études avant la guerre. Et c'est comme ça que j'ai été élevé en Belgique. Je me souviens qu'une des grandes peurs de mon enfance, et quelque chose que j'adore énormément depuis, c'est la pleine lune. J'ai eu pendant toute mon enfance, enfin disons certainement jusque l'âge de 15 ans au moins, la panique devant la pleine lune. Je me souviens que quand on m'envoyait faire des courses, Le soir, s'il y avait la pleine lune, je marchais la tête sur le côté pour ne pas la voir. Quand je montais me coucher dans ma chambre et que la lune l'inondait, le bouton était à la porte et mon lit était dans l'autre coin de la chambre, alors j'éteignais, je fermais les yeux, je me précipitais dans mon lit, je me cachais sous les couvertures. Depuis que j'ai atteint l'adolescence, ou en tout cas l'âge adulte, j'adore la lune. Je puis passer des heures à regarder la lune.
Et quelles sont vos sensations d'école ?
Ça dépendait essentiellement en réalité des professeurs. Pas du tout des cours, mais des professeurs. Lorsque les maîtres d'abord, les professeurs plus tard au lycée, et même plus tard encore à l'université, si le professeur était antipathique, le cours m'ennuyait, je le trouvais inintéressant, j'étais mauvais, je n'écoutais pas. Tandis que si le professeur me plaisait, je pouvais briller du plus vif éclat.
Et vos contacts avec des camarades ?
Avec les camarades étaient en général bons. Au début, évidemment, dans les premières années, j'ai eu pas mal d'ennuis à cause de mon accent, de mon nom étranger. Et alors, ça me conduisait à des batailles et des saignements de nez assez fréquents. On m'a toujours dit que j'étais très batailleur, mais moi, je m'en souviens pas. On m'a même mis à la porte, ou menacé de mettre à la porte de divers lycées, notamment de Pasteur à Neuilly. Ça me fait des réputations aux gosses qui ne méritent pas. Je dois dire que je suis resté enfant très très tard. Je prenais la vie comme un gosse, et même à 25 ans, quand la guerre a éclaté, j'étais donc citoyen belge et j'étais dans l'armée belge, à la frontière à Bastogne en 1940, et quand la guerre a éclaté, la vraie guerre, le 10 mai 40, eh bien j'ai été ravi, enchanté, enfin on en avait assez de cette attente idiote à creuser des tranchées, à monter des gares stupides, maintenant on allait enfin rire, et j'ai fait toute la campagne de 40, comme un boy scout fait un grand jeu, exactement, donc une réaction vraiment infantile.
Mais vous avez peut-être eu aussi d'autres réactions qui vous ont peut-être amené justement à ce que vous faites maintenant.
Mes parents, enfin ma mère et son mari, parce qu'elle s'est remariée en Belgique dans les années 20, son mari qui a été donc pour moi plus qu'un père, allaient passer les vacances souvent en Suisse ou dans les Alpes françaises, à faire de la montagne. Et quand ils revenaient, moi j'avais passé les vacances à la mer dans une pension, on me racontait, on me parlait de la haute montagne, etc. Ça entretenait une certaine vénération pour l'alpinisme et la montagne. J'avais rêvé toute mon enfance d'être marin, une grande admiration pour les corsaires, les flibustiers, les pirates, etc. Je voulais être marin. Et puis à 18 ans, lorsque j'ai fini le lycée, je suis allé à Anvers, le port belge, pour m'embarquer à bord du navire école. Et j'ai eu une longue conversation avec le commandant du dit navire école, qui m'a démontré, par A plus B, que ma conception de la navigation, qui était toujours celle de Jean Barre de Surcouf ou de la Pérouse, n'avait rigoureusement rien de commun avec celle d'un capitaine de bateau du XXe siècle. Et alors j'ai compris qu'il fallait faire autre chose. Et après bien des hésitations, je me suis décidé à faire l'agro. Et je suis entré à l'école, à l'Institut agronomique belge. Et la première année, des amis m'ont emmené faire du rocher le long de la Meuse. Il y a le long de la Meuse en Belgique de grandes falaises de plus de 100 mètres, grandes falaises verticales qui servent d'école d'escalade. Aux vacances suivantes, je suis allé dans les Alpes. Alors là, c'était vraiment le coup de foudre. Pour pouvoir avoir un métier qui me tienne le plus possible près des montagnes, j'ai fait la géologie après avoir fait l'agro. Et j'ai toujours, d'ailleurs, ça n'a absolument pas diminué, une véritable passion pour la nature. Ça, j'aime autant la haute montagne que j'aime simplement de beaux champs labourés ou des champs de blé ou le désert. La nature, dans ce qu'elle a de beau, m'enthousiasme toujours au même point, que ce soit à petite échelle ou à grande échelle.
Est-ce que vous avez pensé à ce moment-là à écrire un petit peu les impressions que vous donnez la nature ?
Alors là, absolument pas. Non, à ce moment-là, qu'est-ce que j'aimais ? J'aimais l'entomologie, c'est-à-dire les insectes, quoi. Je faisais des collections d'insectes, ça me permettait de vagabonder à travers les bois, les prés. J'aimais camper, j'aimais la montagne, je vous l'ai dit. Et alors, je faisais beaucoup de sport. Et j'aime toujours l'effort physique pour lui-même et pour l'esprit qui règne dans les milieux sportifs que j'ai fréquentés, du moins. Et puis, je dois vous dire aussi, c'est aussi la réaction de l'enfant contre le milieu des parents. Et pourtant, tu sais, si j'avais été couvé, choyé, etc. Mais ma mère donc est une universitaire, mon beau-père également, un milieu très intellectuel, très artiste. Alors je réagissais contre ce milieu, au contraire, par par le sport et des sports très rudes, je faisais de la boxe de combat, je faisais du football, et par la fréquentation des paysans, etc.
C'est peut-être un effet de ce goût pour l'effort qui amène Haroun Taziev dans une forêt africaine. Et voici le récit de sa rencontre avec des éléphants.
Il fallait se hâter si l'on voulait être sorti de la forêt avant la nuit. Dans la bise glaciale qui balayait la crête et que nos hommes supportaient depuis 3 jours, on boucla les sacs, on enroula cordes et câbles et chacun prit sa charge. Le Mouzouloulou se reforma et dans le brouillard suivit prudemment la pente extérieure du volcan. Nous émergeâmes du nuage peu avant la forêt de bruyère. Il était plus de 4 heures déjà, aussi fût-ce vraiment ou pas accéléré que nous nous mîmes à dévaler la montagne, avec tout ce que cela sous-entend de trébuchements, de glissades, de chutes et de jurons. Non que nous eussions tenu à arriver en bas de jour, puisqu'il fallait de nouveau échapper à l'œil des gardes officiels. Mais nos noirs avaient une telle crainte des éléphants qui pullulent sur les flancs boisés du Nira, qu'il voulait absolument se trouver hors du couvert avant la nuit. Quant à nous, il y avait longtemps que l'idée seule d'un bain chaud nous semblait paradisiaque. Nous courions, sautions par-dessus les troncs tombés en travers de la piste, nous nous laissions filer sur la boue glissante, tout en songeant au confort et au dîner de plus en plus proche. Passé les bruyères, nous retrouvâmes la forêt d'altitude normale. Une bande d'éléphants avait suivi la piste depuis notre montée. On s'en apercevait à la quantité impressionnante de fumée, monts odorants qui rappelaient l'écurie paisible d'une ferme française. En 2 endroits, les pachydermes avaient fait halte pour y brouter ou y jouer. Et là, ils avaient tout nivelé, écrasé les arbres comme au marteau-pilon. Lorsque vous voyez des troncs 1 mètre de circonférence brisés comme baguettes, la végétation réduite en fétus, lorsque vous relevez ces empreintes circulaires de pieds trop larges, lorsque vous comparez cette dévastation à votre souvenir de ce qui était il y a 3 jours encore ce coin d'une jungle paisible jusqu'à en paraître impénétrable, il est difficile de ne pas éprouver une légère appréhension. On jette alors un coup d'œil sur sa montre, on calcule qu'il y a au moins pour 3 quarts d'heure avant d'être sorti de là, alors que la nuit doit tomber dans 35 minutes, et l'on essaie d'accélérer encore. Le soir faisait s'exhaler les senteurs végétales. Nous traversions successivement des zones où les grappes de fleurs orangées d'un arbre de bonne taille étalaient une fétide odeur de pieds malpropres, et d'autres ensuite où régnait le parfum exquis de la pomme et de l'ananas. Malgré notre hâte, la nuit nous surprit sous le couvert. Nous avancions rapidement dans la boue du sentier. Depuis longtemps, personne ne parlait plus, par fatigue, par prudence aussi. Qui sait, le son des voix aurait pu porter jusqu'à la demeure des gardes. Il faisait noir comme sous la terre, dans la forêt était dense au-dessus de nos têtes, et l'on ne distinguait absolument rien de l'homme qui marchait devant soi, même lorsqu'on butait dedans. Soudain, un coup de trompette assourdissant déchira l'air. Je m'arrêtai net, sans tout de suite comprendre. Au moment où un deuxième coup de trompette partait, j'entendis les cris des porteurs en fuite. « Tambo, tambo, les éléphants !» Terrifiant barrissement de colère. Il nous avait surpris dans une obscurité épaisse qui semblait en augmenter la puissance. Instant de panique pendant lequel chacun fonça n'importe où, perdant la sente, cherchant instinctivement un couvert, n'importe lequel, derrière quoi s'abriter, se tapir, disparaître. Il n'était plus question de jungle infranchissable. Noir comme blanc, nous bondissions au travers de cet incroyable enchevêtrement de lianes, de ronces, de troncs droits et d'arbres écroulés, indifférent aux égratignures féroces, aux chutes, aux ecchymoses, anxieux uniquement de trouver quelque miraculeux abri.
Quand avez-vous fait votre premier grand voyage ?
C'était après la guerre, et je dois vous avouer qu'à ce moment-là, j'en avais vraiment assez de l'Europe occidentale et de tout ce qui s'était passé entre 1940 et 1945, et On cherchait un ingénieur dans une compagnie minière au Congo belge. J'avais aucune envie d'aller au Congo en réalité, j'avais envie d'aller en Chine. Rien ne se présentait évidemment du côté de la Chine en 1945, et par contre le Congo belge manquait d'ingénieurs et je suis parti dans une mine là-bas.
Et quelles ont été vos premières impressions en arrivant au Congo belge?
En arrivant au Congo belge, j'ai été saisi d'une sainte colère. C'était à bord du bateau, le Copacabana, qui avait pénétré dans l'estuaire du Congo et allait accoster à Matadi, qui est le grand port de mer à l'embouchure du Congo. C'est bien à l'intérieur de l'estuaire. Et j'étais sur le pont avec tout le monde, quoi, notamment quelques camarades d'études qui venaient aussi là-bas comme ingénieurs. Et nous gardions les gens qui étaient sur le quai, qui attendaient l'accostage du navire. Il y avait là-dedans toute la foule de noirs, plus une quinzaine ou une vingtaine de blancs. Et dans ces 15 ou 20 blancs, il y en avait certainement 50% qui avaient ce qu'on appelle là-bas l'œuf colonial, c'est-à-dire une énorme panse. Je me souviens des invectives que je débitais. Regardez-les à côté de ces noirs, fins, souples, légers. Et j'étais tellement furieux et indigné que les gens ont cru que j'avais un coup de soleil. Je fais une belle traversée du Congo, 3 semaines à peu près, par le fleuve. Bateau à aube sur le fleuve, c'était encore plein de poésie à l'époque. Et puis après 3 jours de chemin de fer et puis encore une journée d'automobile, je suis arrivé à la mine. Là, le travail était intéressant. D'abord, le pays avait beaucoup de grandeur. C'est à une altitude d'environ 2000 mètres dans la savane. Une belle savane.
Vous n'avez plus été révolté à ce moment-là?
Si, toujours. Ouais, toujours des sujets de révolte. Bon. Au bout d'un an, je n'étais plus speaking terms, comme on dit là-bas. Je ne parlais plus à mon directeur que pour des raisons de service, parce qu'il avait voulu intervenir dans ma vie privée en Afrique. Quand vous êtes salarié, quel que soit votre grade, dans une grosse société, la grosse société croit qu'elle peut toujours intervenir dans vos affaires personnelles. Ça, c'est une chose que je n'admettais pas. Alors, nous avons eu un an de guerre encore après cela, puis j'ai donné ma démission. Et je suis parti dans une autre partie du Congo comme géologue pour le service géologique de la colonie. Je m'étais engagé au service géologique parce qu'il y avait un géologue de très très grande valeur qu'il dirigeait. Et je voulais travailler sous ses ordres.
Toujours votre question de sympathie pour les certaines
Exactement.
Personnes.
Ah oui, ça n'a pas changé, oui. Et alors je voulais travailler avec ce géologue qui s'appelait Raymond de Dicker, et qui était vraiment un très grand bonhomme. Et il est mort sur une table d'opération quelques jours avant que je n'arrive.
Et vos premières impressions avec la nature de ce pays-là?
Eh bien, je ne l'aime pas beaucoup, la nature du Congo. Les premières choses que j'ai vues, ce sont les belles collines, très hautes collines de savane et de forêt du Mayombe, à l'embouchure du Congo. Puis après, ça a été le fleuve, le Congo, qu'on appelle le fleuve là-bas tout simplement, est vraiment grandiose. Surtout quand on le voit à des endroits comme, je l'ai vu d'abord, l'estuaire, et puis Léopoldville, où il s'étale en un énorme lac, au bord duquel d'ailleurs se trouve de l'autre côté Brazzaville. Mais pendant 15 jours, nous avons remonté le fleuve, c'était assez grandiose. Et en même temps, en forme monotone, les deux rives sont un rideau de forêt, et on navigue dans ce rideau de forêt, jour après jour, on s'arrête le soir pour faire le bois, à un poste à bois, on passe la nuit là et puis on repart le matin. Et puis après, au Katanga, c'est la savane. Alors ce n'est plus la forêt, c'est la savane. Vous voyez des étendues de 50 km, de 60 km d'un seul coup d'œil. Ça a beaucoup de grandeur. Mais je ne me suis jamais senti en communion avec la nature au Congo. Jamais. Non plus quand je suis allé donc au service géologique, c'était une région réputée pour être extrêmement pittoresque, celle du lac Kivu, au nord du Tanganyika, et je n'aime pas. C'est une nature dans laquelle vous ne pouvez pas vous rouler dans l'herbe. Comprenez, l'herbe là-bas, c'est quelque chose qui est toujours plus ou moins hostile. Les herbes sont piquantes, il y a toujours un bestiau quelconque qui vous pique. Ce ne sont ni les léopards, ni les cobras, ni les lions, ni les rhinocéros qui font peur. C'est les sales moufrons, les moustiques, les mouches, les larves de toute espèce, c'est ça qui m'a toujours répugné.
Quels étaient vos contacts avec les populations?
En général, excellent. Ça a commencé d'emblée, d'ailleurs, quand j'étais à la mine. Dès ma première année, je commençais à peine à baragouiner quelques mots de Kiswahili, que déjà je m'entendais avec les indigènes infiniment mieux que mes collègues et que le directeur de la mine. Ça a été d'ailleurs un des sujets de mésentente entre nous.
Mais pourquoi vous entendez-vous ? Parce que vous les plaignez ou bien
non,
parce que
vous ne les plaignez pas. Ils ne sont pas à plaindre. D'ailleurs, au Congo belge, le paternalisme avait au moins ceci de bon, que les Noirs n'étaient vraiment pas à plaindre au Congo et ne le sont toujours pas. Mais ce qu'il y a, c'est que je les considérais, et je considère tous les hommes, à quelque race qu'ils appartiennent, comme des hommes.
Est-ce que vous avez souvent rencontré des tribus qui n'avaient pas beaucoup de contact avec la civilisation ?
Ah oui. Quand j'étais à la mine, j'ai fait des travaux de prospection à certains moments. Et je me souviens d'avoir traversé ou campé près de village où le dernier blanc était passé 20 ans auparavant, et qui était également un prospecteur. Vous voyez que c'était... Alors plus tard, en 53 notamment, j'ai fait un assez long raid dans le nord du Kenya, dans la Northern Province du Kenya, et là j'ai rencontré des tribus, ou plutôt des membres de tribus, parce qu'ils sont nomades et sont très dispersés, qui n'avaient jamais vu un blanc, des Turkana, au sud du lac Rudolph. Les deux premiers que nous ayons vus, c'était des pasteurs, des sont de grands hommes d'un mètre 80-90 qui vivent absolument nus avec leurs troupeaux de chèvres ou de moutons. Et les deux premiers que nous ayons vus avec leurs troupeaux, ils nous ont vus venir de loin et quand ils ont vu que nous approchions, ils sont partis plus loin. Et ce n'est que le lendemain que nous avons pu les approcher. Et ces deux-là, il n'y a pas eu de contact. J'étais allé à eux avec un de mes camarades et un de nos guides, un guide qui appartenait à une tribu du même genre d'ailleurs, les Samburu. Et ils ont beaucoup parlé entre eux, je n'ai pas su ce qu'ils disaient parce que le guide ne parlait pas le Kiswahili, qui est la langue véhiculaire. Et je ne comprenais absolument rien de ce qu'ils disaient, mais ils n'ont pas manifesté de sympathie et ils se sont éloignés. Et le lendemain, nous avons rencontré un autre Turkana, un homme plus âgé. C'est un homme d'âge moyen, d'un mètre 85 environ, 90 peut-être, tout nu également, avec ses cheveux rassemblés en énorme chignon enduit de boue. Il avait une femme et des gosses qui étaient dans une hutte de branchages épineux, mais on ne les a pas vus, on les a entendus, on les a vus de loin, enfin on ne les a pas vus de près. On s'est fait beaucoup de sourires, et alors là, la sympathie a été totale, immédiate, sans un mot de compréhension, on ne parlait absolument aucun mot commun. Puis il est allé pêcher dans un bras du lac. Alors il pêchait d'une façon étonnante. Il avait une sagaie attachée par une longue lanière de cuir. Il lançait la sagaie dans l'eau obliquement sans regarder. Il n'a pas fallu 5 minutes pour qu'il ramène une énorme carpe du Nil qui faisait certainement près d'un mètre de long pour vous dire si c'était poissonneux. Et puis il nous l'a donné. Il nous l'a offerte. Nous avions extrêmement faim, ce qui fait que nous avons accepté avec grande joie. Nous avons voulu lui donner un chelin en argent pour le payer de sa peine. C'est la première fois qu'il payait une pièce. Il ne savait pas ce que c'était. Il la regardait, il la retournait, il la suçait. Alors on lui a fait expliquer par notre guide qu'avec ça, il pourrait aller à la boutique du Somali. Il y avait un Somali à 7 ou 8 jours de marche de là qui avait une tente que nous avions vue en venant, où ils vendaient donc des hameçons, du riz, de la farine, je ne sais pas quoi, des étoffes. Et on lui a dit, avec ça, tu peux acheter des quantités de choses. Il n'a pas compris. Nous avions encore une boîte de lait condensé, on a vidé la boîte de lait condensé. Puis il est venu, mais tiens, je vais lui donner la boîte, on lui a donné la boîte vide. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi heureux. Ça, la boîte, il a tout de suite compris tout ce qu'on pouvait en faire.
N'étiez-vous pas quelquefois gêné devant ces hommes, non pas à cause de leur misère, mais parce que vous vous sentiez étranger ?
Si, toujours. Toujours en réalité, j'ai l'impression d'être un intrus quand je vais dans un pays comme cela. Et un intrus qui n'apporte rien. Il vient prendre leur tranquillité, qui fait partie des gens qui viennent les exploiter leur crédulité, leur pauvreté, leur capacité au travail, etc. J'en fais partie, je suis solidaire, et alors j'ai le complexe de culpabilité.
Et qu'est-ce que vous avez l'impression que vous pourriez apporter ?
Moi, personnellement, vraiment, je ne peux rien leur apporter. Je ne vois pas ce que je vois. Moi, que je ne retourne à mes métiers d'origine, l'agronomie et la géologie, et que je ne leur trouve des points d'eau, ou que je ne leur apprenne à mieux cultiver leur terre. Mais enfin, comme je ne le fais pas, je ne leur apporte rien. Sauf de la sympathie, ce qui parfois vaut aussi quelque chose.
Thank you. La chaleur était devenue insoutenable. Nous nous étions encore arrêtés de ci, de là pour casser un morceau de basalte et l'enfouir dans le sac, pour prendre une photo, un bout de film, pour inscrire quelques notes, et nous allions égrenés sur le fil ténu de la piste. Chacun marchait seul. Chacun portait sa propre soif, sa propre fatigue. Chacun rêvait seul au camp trop lointain, la tente, le thé. On voyait la chaleur s'élever en vibrant comme au-dessus d'une tôle surchauffée. Les lignes n'étaient plus nettes, elles s'agitaient silencieusement, et les lointains avaient perdu cette acuité des contours habituels à l'Afrique. Même le souffle du vent était insupportable. On eût dit qu'il sortait de la gueule d'un four, nous respirions du feu. La plante du pied vous brûle à travers la semelle, sur cette rocaille bleu-noir qui absorbe le feu déversé. Quelque part il existe de l'eau, des torrents dans les Alpes, des fontaines d'eau froide qui coulent tout le jour, toute l'année durant, dans les bachals des villages savoyards. Je les entends chanter. Le jet tombe dans la grande cuve de pierre et vous éclabousse. Parfois il s'étouffe, gargouille, puis reprend son écoulement régulier. Et le robinet mal fermé dans la cuisine, je l'entends aussi. Tout est silencieux, c'est un dimanche d'été, l'appartement est vide, et le robinet de la cuisine laisse s'égoutter l'eau. Cela me torture. Je vois cette cuisine de mon enfance, mais je sais aussi que j'ai lu, naguère chez qui, mon Dieu, la description d'un tel après-midi dominical, et ce souvenir s'ajoute. Lancinant. Tant de fraîcheur, tant d'eau claire, désespérément perdue. Je suis arrivé le dernier. Depuis longtemps, je voyais la minuscule tache orangée de la tente. Cela m'avait rendu du courage, mais j'avais marché, marché, et elle demeurait tout aussi lointaine. Je suis dans la rivière de Cailloutis Noirs, celle dont les berges rectilignes prolongent la baie étroite de l'Otard. Un pied devant l'autre, et de nouveau un pied devant l'autre. Il descend du ciel des nappes liquides de feu. Tout à coup, la tente ne fut plus qu'à 200 mètres. Je voyais Jacques et Louis assis tout au bord de l'eau. Ils buvaient sans doute. Et de savoir qu'il y avait enfin de quoi boire, je m'aperçus que ma soif n'était pas effroyable. Que j'avais simplement trop rêvé à la France, aux labours bruns, aux alpages, aux eaux vives, et j'eus une vague nausée à l'idée de l'eau tiède et saumâtre du lac. Je me souvins qu'elle se laissait boire crue, mais que sous forme de thé elle était écœurante. Je n'avais pas si soif, puisque je passais un bon quart d'heure à ramper pour essayer de filmer les oiseaux qui abondaient à l'extrémité marécageuse de la baie. Ibis, flamants, cigognes, oies du Nil. Puis je rejoignis mes camarades. Ils étaient assis par terre à côté d'un trou qu'ils avaient creusé pour filtrer l'eau, qui était ici particulièrement sale. Et tantôt, ils buvaient à petits coups l'eau saline et tiède, tantôt, ils trempaient entièrement leur veste de toile pour la revêtir aussitôt. « Mon vieux, c'est formidable. Il y a des mois que nous n'avons pas eu si froid. » C'était vrai. J'en fis l'expérience, à la fois délicieux et excessif, car l'évaporation extrêmement rapide de l'eau qui imbibait le tissu nous faisait frissonner. Ces frissons devinrent si désagréables que nous finîmes par abandonner ce rôle de gargoulette pour chercher plutôt un peu d'ombre. Mais où dans ce désert? Sous la tente, on aurait cuit à l'étouffer. Dans l'eau, comme la veille. Vraiment, elle était presque opaque, tellement elle contenait de plancton et elle grouillait de crocodiles. Richard eut l'idée excellente de monter nos lits de camp pour les dresser contre le soleil, et chacun derrière son écran, nous passâmes ainsi la dernière heure torride du jour. Il y avait à l'ombre 54 degrés centigrades.
Tazieff, vous avez parcouru les déserts, exploré les fonds sous-marins, mais je crois que ce qui vous caractérise le plus, ce sont vos recherches sur les volcans. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser aux volcans?
Un pur hasard, c'est... En ma qualité de géologue, je suis arrivé un jour sur un volcan en éruption et pour l'observer très officiellement, et une fois que j'ai vu le spectacle qui est absolument, qui dépasse tout ce que l'on peut décrire, qui dépasse la possibilité des paroles, eh bien, j'ai été subjugué entièrement, et depuis lors, je me suis passionné pour le sujet.
Est-ce qu'on pourrait essayer justement d'analyser ce qui vous attire dans les volcans?
Il y a d'une part la splendeur du spectacle. Au point de vue spectacle, une éruption volcanique ou un volcan en activité, même non éruptive, c'est grandiose. Et plus l'éruption est violente, plus l'effet de colossal, de puissance, de beauté. Ça peut être très lumineux, ça peut être à d'autres moments opaque et noir, mais quand vous avez, comme par exemple, lors de l'éruption des Açores, il y a 2 ans exactement, elle a duré une dizaine de mois, je crois, lorsque l'éruption a éclaté, on ne voyait aucune partie enflammée, parce que c'était une éruption sous-marine. Et par contre, il y avait des moments où le jour s'obscurcissait et on était plongé dans une nuit totale, en plein midi. Eh bien, même cela, même plongé dans la nuit, des cendres qui tombaient, n'est-ce pas, vous ne voyez rien, vous ne pouviez pas voir votre main à 5 cm de vos yeux, tellement il faisait noir, eh bien, ça avait une grandeur qui était belle. Il y avait aussi, alors, pour le géologue que j'étais, l'attrait de l'inconnu, parce que le mécanisme et le pourquoi et le comment des éruptions volcaniques demeurent encore très, 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 très mal connus. Alors, il y a des quantités de questions qui se posent et des techniques à trouver pour résoudre ces questions, etc. Donc, il y avait le côté intellectuel. Il y avait aussi le côté du sportif. C'est assez tonitruant et assez impressionnant pour arrêter les gens, en général, à distance raisonnable. Lorsque l'observateur scientifique se rend compte qu'il est possible d'aller plus loin, alors intervient le plaisir sportif d'aller le plus loin possible avec des risques soigneusement calculés. C'est le même type de plaisir que celui de l'alpiniste. C'est même une joie formidable de vaincre la nature.
Est-ce que vous avez l'impression que le danger ennoblit?
Je ne dirais pas que le danger ennoblisse, non. Non, je ne suis pas pour la recherche du danger. Je suis pour la recherche de la difficulté. La difficulté ennoblit, mais pas le danger. Aussi longtemps qu'elle n'est pas dangereuse, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dangereuse pour vous, avec vos capacités, votre sens du jugement et vos possibilités physiques. Mais dès que vous dépassez cela et que réellement vous courez un danger que vous avez cherché, eh bien, je suis plutôt opposé à la chose. Et quand j'ai l'air de courir de graves dangers parce que je suis au milieu d'un bombardement de pierres brûlantes dans une éruption volcanique, en réalité, je considère, à moins que je me sois laissé surprendre par un manque de jugement, ce qui arrive, mais sinon, si j'y suis allé volontairement et si j'y suis, je considère que j'y cours beaucoup moins de dangers que je n'en courrais sur la Nationale 7 un jour de fête avec tous les ahuris qui conduisent les automobiles aujourd'hui.
Est-ce que vous avez fait des constatations scientifiques intéressantes sur les volcans?
Oh, je ne sais pas. On verra ça d'ici 10 ou 15 ans quand je serai au bout. Pour le moment, je suis en train de faire ce que je peux, et puis on rassemble ça petit à petit. Vous savez, la construction scientifique, c'est une série de petits cailloux que l'on ajoute, et finalement, le monticule devient tumulus. Chacun amène son petit brin de paille comme une fourmi, pour une fourmilière. Et j'ai fait des observations qui pourront peut-être être intéressantes ou être utiles, je n'en sais rien. Je suis à l'origine du mouvement d'intérêt que l'on a maintenant dans nos pays pour l'étude du volcanisme, et je suis à l'origine d'une série d'expéditions scientifiques de plus en plus grande importance et de la création en Belgique notamment d'un centre national de volcanologie, etc., qui vont certainement faire progresser le savoir.
Est-ce qu'il y aura peut-être un jour une utilité pratique à cette étude?
Ah, peut-être bien. Il y a déjà plusieurs pays qui amorcent l'étude de l'énergie géothermique, et notamment les Néo-Zélandais. Je suis allé là-bas à deux reprises cette année, en Nouvelle-Zélande. Ils vont bientôt tirer plus de 500 000 kilowatts, pas directement de l'énergie volcanique, mais de l'énergie subvolcanique, des fumerolles, et des vapeurs surchauffées. Les Soviétiques sont en train de faire la même chose au Kamtchatka. Et on nous dit que plus tard, on ne pourra pas en tirer encore bien plus d'énergie que cela en s'attaquant directement à la base des volcans eux-mêmes. Je suis un des premiers à être allé filmer des volcans dans leur gueule et m'être approché de certains phénomènes qu'on n'avait jamais vus sur les écrans et de les avoir montrés.
Et quand vous les revoyez, ces films?
En général, ils me déplaisent. parce que je me souviens de ce qu'était la réalité, qui était mille fois plus belle. Rien au monde n'est aussi extraordinaire sur Terre que le phénomène volcanique. C'est certainement le spectacle le plus grandiose qui soit sur Terre. Par sa vue, par l'odorat, par le mouvement, par la couleur. Quand vous voyez des milliers de tonnes de matière projetées à des vitesses de 300 km à l'heure jusqu'à 2000 mètres d'altitude, je vous assure que rien dans la montagne, et pourtant Dieu sait si je suis un adorateur passionné de la montagne et si je la trouve grandiose, rien n'arrive à cette échelle, rien. La plus colossale avalanche n'est qu'un rien du tout à côté d'une éruption. Devant une grande masse de lave, comme celle où nous étions cet été, un lac de lave de 40 hectares qui bouillonne, et on a vraiment l'impression d'être devant ce qu'est l'essence même du globe.
D'ordinaire, les éruptions vulcaniennes sont trop meurtrières pour qu'il soit possible de s'approcher non seulement du cratère, mais parfois de la base du cône volcanique. Au Sakurajima, autre volcan japonais, des circonstances exceptionnellement favorables nous ont permis cependant de nous tenir 2 heures durant sur la lèvre même du cratère abrupt profond de 300 mètres et d'y photographier, espacé de 30 à 35 minutes, 3 magnifiques explosions vulcaniennes. Ces 2 heures furent, malgré tout, assez épuisantes, surtout à cause de la forte tension nerveuse que nous devions supporter. Mon ami et fidèle compagnon Pierre Bichet, c'était là la première éruption de sa vie, en revint indubitablement marqué. Ces volcans à andésite forment la majeure partie de la célèbre ceinture de feu, qui cercle de centaines de volcans plus terribles les uns que les autres l'océan Pacifique. Certaines catastrophes sont devenues légendaires, telles celles du Bandai-san, Japon, qui, après un millénaire de repos, fracassa en 1888 la moitié de la montagne, réduisant son volume d'un milliard de mètres cubes. 11 villages furent engloutis sous les débris, 7000 hectares furent ravagés, 461 personnes furent tuées. La Zamayama que nous avons trouvé fumant paisiblement est l'un des volcans les plus redoutables du monde et aussi l'un des mieux surveillés, car à raison même des ravages qu'il cause, on a établi à son pied un observatoire équipé d'instruments de géophysique qui permettent d'ausculter la Terre. Les éruptions de la Samayama sont caractérisées par des explosions brèves et extrêmement puissantes. J'ai vu, à 7 km du cratère, des blocs gros comme un wagon de chemin de fer gisant au creux de l'entonnoir large de 30 pas et plus qu'ils avaient creusé en tombant. Le haut de la montagne, lui, est criblé de bombes tellement serrées qu'il est parfois difficile d'avancer dans ce chaos rocheux. C'était les traces de l'éruption de 1950 qui fut particulièrement violente. Moins violente, cependant, que celle de 1783, lorsque des rocs plus immenses encore furent lancés à des milliers de mètres. L'un d'eux, mesurant 36 mètres sur 75, tomba dans une rivière coulant dans la plaine au pied de la montagne et y resta, pareil à une île. Une cinquantaine de villages furent écrasés et des milliers de personnes tuées. Le dernier en date des soubresauts du terrible Asamayama s'est produit en novembre et en décembre 1958. Par les détonations seules, des centaines de maisons furent démolies, soufflées à des lieues à la ronde. En descendant vers le sud, nous avons rendu visite à d'autres monstres, tristement célèbres par leurs ravages, mais que nous avons malheureusement pour nous trouvés assoupis. Aux Philippines, dans l'île de Luzon, le Taal se présente comme une inoffensive colline d'à peine 100 mètres de haut, isolée au milieu d'un lac à une courte distance de la mer. Le cratère du volcan est lui-même occupé par un ravissant lac limpide. Mais ce lac, bordé de sources bouillantes, des vents où les gaz fusent, de fumerolles sous pression, ce lac cache sous ses eaux hypocrites des forces terrifiantes. En 1911, une explosion extrêmement brutale, dirigée non vers le haut mais latéralement, balaya de ses gaz brûlants, de ses vapeurs et de ses projectiles une surface de 23 000 hectares, tuant 1332 personnes. Celles qui furent retrouvées mortes sur le flanc même du volcan n'avaient été ni brûlées, ni même roussies. Elles avaient été ébouillantées par la vapeur projetée et meulée à mort par le terrifiant souffle de sable volcanique.
On a beau avoir une certaine habitude des volcans actifs, on éprouve toujours un choc véritable à découvrir une grande masse de lave en fusion. Non seulement le spectacle vous exalte par sa splendeur, mais l'âme se trouve comme étourdie devant cette sorte de révélation de l'un des secrets profonds de notre Terre. À quelques cent mètres, s'étalait en un large croissant de 20 000 mètres carrés un lac, fait de la matière primordiale qui, sous la croûte superficielle des rocs, forme la planète. C'était là la source de lumière qui illumine la nuit, le ciel de toute la région. Source qu'alimente sans faillir on ne sait quel foyer profondément enfoui. Le lac était en repos. Une épaisse peau noire recouvrait la masse liquide qui ne s'apercevait qu'au travers d'un réseau de longues et étroites fissures courant sur cette espèce de carapace plastique. En trois ou quatre endroits, cependant, une violente ébullition empêchait la peau de se former et brassait une lave tellement ardente que sa couleur atteignait le jaune de l'or. Bientôt, ces fontaines prirent plus de vigueur. Leur diamètre s'accrut jusqu'à dépasser une douzaine de mètres. Les bouillons éclatants jaillirent de plus en plus haut, faisant retomber d'énormes gouttes de métal fondu dans ce tourbillon. Peu à peu, les fontaines s'exacerbèrent, aspirant la matière environnante. De larges pans de croûte se détachaient de l'étrange banquise noire et se mettaient à voguer lentement d'abord, puis de plus en plus vite, vers les maelstroms flamboyants dans la furie rouge desquels ils s'engloutissaient. Parfois tout s'apaisait, il se faisait un silence insolite et seules les fissures pourpres révélaient la matière du lac. À d'autres moments, au contraire, une véritable fureur s'emparait du chaudron d'enfer. En quelques minutes, la surface entière se mettait en mouvement. La carapace s'éparpillait, tout entrait en effervescence. Et le lac n'était bientôt plus qu'un immense éclatement, sans cesse recommencé. Alors au clapotement de la lave, au sifflement des gaz fusant au travers d'une série des vents percés dans le prolongement des cornes du croissant, s'ajoutait le vacarme de ce paroxysme. Explosion, hurlement aigu, rauque rugissement tranchant sur un grondement de cataracte. Il arrivait que, sapé par la base, miné, rongé par les vagues corrosives et les 1000 degrés de ce magma, d'énormes pans de falaise s'abattent, avec fracas, dans le haut fourneau démesuré. On se sentait prêt à se demander comment toute la montagne n'était pas digérée, comment elle arrivait à contenir, sans éclater, tant de puissance.
Il n'est pas rare du tout de déceler ainsi une sorte de pulsation dans l'activité éruptive. Je me souviens de la régularité extraordinaire qui se manifesta bien plus de 24 heures d'affilée au Kitouro, Congo-Belge, en 1948. Toutes les 17 minutes exactement, des gaz fusaient soudain d'une bouche adventice avec une violence et un rugissement effrayants. À l'Isalco, le retour régulier du repos matinal me détermina à tenter l'ascension du cône. Nous avions, depuis l'aube, 8 heures de paix relative, pour autant que nous ne choisissions pas pour notre tentative le jour où le volcan se déciderait à changer de rythme. Dès l'aurore, comme d'habitude, le fracas de l'éruption s'apaisa. Plus nous nous élevions parmi ce colossal amoncellement de blocs instables qu'est l'Isalco, plus le bruit du cratère devenait impressionnant. Certains parmi nous semblaient plus désireux de faire demi-tour que de poursuivre leur ascension, tant il est vrai que son vacarme est l'un des facteurs les plus effrayants du volcanisme actif. Contemplé du haut du Cerro Verde ou de la bourgade de Sonsonate, le calme quotidien de l'Isalco semblait bien différent de ce qu'il se révélait être dans les 100 mètres supérieurs de la montagne. Au sommet, malgré l'émotion complexe, née de craintes contenues et de la joie du succès, le spectacle valait largement les efforts consentis. L'immensité argentée de l'océan servait de fond paisible à un décor effrayant. Le cratère de l'Isalco, large de 100 mètres à peine, ne se présente ici ni comme un entonnoir, ni comme un chaudron, mais comme une assiette, à peine creuse, pleine d'énormes mottes de roc noir figées, certes, mais dont la forme et l'aspect évoquaient aussitôt leur état pâteux, encore au moment où ils s'étaient abattus, empilés et agglutinés là. Le sol vibrait sans discontinuer dans un grondement sourd. Et cette trépidation, nous l'apercevions avec netteté dans nos jambes et notre ventre, retrouvant sur le champ avec elle l'inquiétude étrange, organique, que déclenche en l'homme le plus fondamentalement angoissant des fléaux, le séisme. J'ai voulu ici, comme tant de fois je l'avais en vain tenté au Stromboli, atteindre l'une de ces cheminées rougeoyantes et sifflantes, afin de me rendre compte de ce qui s'y passait. La marche dans le cratère était difficile. Sur le dos des grosses bombes figées déjà, mais chaudes encore, monstrueuses tortues noires entassées. Il fallait avancer avec prudence, ne pas poser le pied sur quelque croûte fragile, ni sur quelque endroit encore rouge. Et en même temps, surveiller la gueule dont je me rapprochais pour ne pas m'exposer au choc peu souhaitable de l'un des fragments qu'elle crachotait. Hélas, à progresser trop lentement, la plante des pieds se mit à me brûler soudain. La chaleur de ce sol, quelque peu infernal, ayant fini par traverser les épaisses semelles de caoutchouc durci de mes chaussures. Enfer, infernal, sont bien les termes qui conviennent à ces roches à peine issues des profondeurs terrestres, puisque infernus signifie le lieu d'en bas. Je n'étais plus alors qu'à 10 pas de l'objectif, mais la prudence comme l'expérience ordonnait une retraite immédiate. Une fois que la chaleur a atteint la plante des pieds, il faut, avant que la douleur ne devienne fatale, se hâter d'isoler ceci de la source chauffante. Quelques heures plus tard, alors que lourd de la lassitude d'après les fortes tensions nerveuses, nous gravissions avec peine les lapillis accumulés que forme le Cerro Verde, une formidable détonation nous immobilisa, puis nous fit nous retourner sur place. Une épaisse colonne de fumée noire s'élevait jusqu'à plus de 1000 mètres de hauteur. C'était tout le remplissage du cratère que la première explosion du travail quotidien de l'Izalco projetait dans les airs.
Ce lac était plus mystérieusement compliqué qu'une quelconque pièce d'eau, car non seulement l'en différenciait ses bruits, ses soupirs, ses hurlements comme hystériques, ses alternances de périodes de calme et de déchaînement, mais encore des courants naissaient tout à coup au sein du cours liquide de feu, lent tout d'abord, puis de plus en plus rapide, et entraînaient tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre, la matière étrange sur laquelle flottaient les débris noirs de la carapace disloquée. Il était rare, cependant, que les courants balayassent la superficie entière. Le plus souvent, après avoir décrit une courbe plus ou moins accentuée, ils s'orientaient vers quelques points de la rive et disparaissaient en dessous du basalte consolidé de la berge en surplomb, dans l'éclat d'un bouillonnement d'or. De toutes les directions, la lave s'ébranlait alors vers cette fontaine, comme si une bonde en dessous d'elle avait été retirée par quelques vulcains. Il arrivait que 2 ou 3 fontaines simultanées attirassent de la sorte, d'un rayon de près de 100 mètres, le magma qui les entourait. La vitesse du flux augmentait jusqu'à atteindre un maximum, en même temps que la température superficielle approchait les 1100 degrés, à en juger par l'intensité du jaune éclatant de ce bain fondu. Puis, rapidement, tout se calmait. Les courants ralentis devenaient imperceptibles, s'arrêtaient, tandis que la splendeur d'or virait au rouge cerise, au grenat, puis au pourpre sombre, pour s'éteindre en quelques secondes dans le noir de la croûte plastique de nouveau reformée. Une période de repos s'établissait alors, qui pouvait durer un moment fort bref ou dépasser la demi-heure. Sauf de rares zébrures rouges parcourant la carapace, rien n'apparaissait plus de la matière prodigieuse qu'elle recouvrait. En général, cependant, 1 ou 2 petites fontaines se réveillaient bientôt, éclaboussant de leurs taches écarlates le vaste cratère obscurci. Durant ces repos, c'est à peine si on distinguait la fumée qui montait du cratère, alors que pendant les paroxysmes, le panache qui se développait au-dessus du volcan rougeoyait si intensément qu'il laissait voir aux spectateurs bien proches ces tourbillons sulfureux. On comprenait maintenant pourquoi le Niragongo, vu de la petite ville de Goma, ou même par les nuits claires de Bacavu, à 100 kilomètres à vol d'oiseau, embrasait parfois le ciel, alors qu'à d'autres moments, il paraissait éteint.
Le Gununagun est la montagne sacrée par excellence. À mi-chemin du sommet est construit le grand temple Besaki aux centaines de tours carrées coiffées de toits en fibres de canne. Le Gununagun est centre du monde et père de l'humanité. Le Gununbatur s'élève, lui, à 1717 mètres au-dessus de la mer, dans le nord de l'île, et contient l'un des plus parfaits cratères du monde et aussi l'un des plus vastes, puisqu'il mesure 14 km sur 10. Le fond se trouve à 200 ou 300 mètres en dessous de la lèvre, et un beau lac de 7 km sur 2 en occupe la partie sud-est. Des villages, des hameaux s'égrènent le long de sa rive orientale, au pied de la paroi, peuplée des plus anciens habitants de Bali. Au centre du cratère s'élève, nu et noir, le cône actif du volcan. Il a connu une période très éruptive durant le premier quart de ce siècle, période qui se termina en 1926 par l'émission de puissantes coulées accompagnées de violents tremblements de terre. Sous ces laves incandescentes, disparut le village le plus important de ceux qui s'étaient nichés dans le cratère, celui qui portait comme le volcan le nom de Batur. Les habitants avaient eu le temps de se sauver, mais incapables de rompre le charme qui les lie à la montagne, ils construisirent leur nouveau village sur la lèvre même du cratère et le baptisèrent Kubu Batur. Et chaque année, depuis, lorsque revient le mois d'août, qui vit se manifester la terrible colère des dieux, les gens de Kubu Batur, chargés de présents multicolores et de nourriture de toutes sortes, descendent en longue file la piste étroite qui conduit au fond du cratère. Ils atteignent l'extrémité méridionale du lac et des pirogues les transportent jusqu'au temple, édifié au sommet d'une éminence entre le lac et le cône noir qui règne sur le paysage. Pour 3 jours, au pied du sanctuaire, un village de paillotes et de tentes est construit, dans l'ombre éclatante duquel grouille, rit, danse, joue une population joyeuse et forte de montagnards à la démarche élastique et au regard hardi. Durant ces 3 jours, les femmes, puissantes et belles, préparent pour de somptueuses offrandes des mets minutieusement élaborés dans des plats et des coupes d'argent repoussées, riz, fruits, légumes, volailles et porcelets rôtis. Durant ces 3 jours, des bonzes se relaient à officier dans le ruissellement de soleil du temple, composé comme tous ceux de Bali, d'une série de sanctuaires et d'hôtels, briques roses ou pierres calcaires, disposés autour d'une surface dénudée, une large cour entourée d'un mur bas. C'est cela le temple balinais, où l'on pénètre en passant sous un portique étroit et haut, dressé au sommet d'une vallée de marches. Du village éphémère au sanctuaire et du sanctuaire au village, c'est une continuelle allée et venue, une sorte de procession ininterrompue de femmes iratiques, porteuses de présents en équilibre sur leur tête, d'hommes richement vêtus d'éclatants tissus, le kris au dos passé dans la ceinture. Dans la cour, devant les autels, la population s'agenouille derrière les bonzes. L'encens brûle dans les cassolettes, les drapeaux de prière flottent au vent sec. Nous n'étions pas à 2000 mètres d'altitude, mais j'avais l'impression de me trouver sur les hauts plateaux du Tibet. Nous avons aussi survolé parmi les 128 volcans connus de l'archipel indonésien l'autre célébrité sinistre, le Krakatoa. Au milieu du détroit de la Sonde entre Sumatra et Java, nous avons longuement tourné au-dessus d'un extraordinaire tableau surréaliste. Un œil rouge cerclé de noir, qu'une ligne blanche séparait du bleu profond de l'océan. C'était Anak Krakato, l'enfant de Krakatoa, né en 1927 et souvent en éruption depuis, assoupi lui aussi, hélas, lors de notre visite. Anak Krakato a pointé hors des flots son anneau de scorie et de cendres noires dans la partie médiane de l'énorme cratère sous-marin provoqué par la catastrophe de 1883. Cette année-là, le 20 mai, l'activité éruptive assoupie depuis 2 siècles reprit dans le cratère perché à 800 mètres d'altitude de ce volcan long de 9 km et large de 5. Le panache de vapeur, de gaz et de poussière s'éleva à 11 km. Des détonations furent entendues à 200 km de là. Au terme de 3 mois d'activité croissante, le 26 août, le paroxysme éclata. Jusqu'au lendemain, l'éruption ne fit qu'amplifier, explosion fantastique, entendue à 4000 km. Et effondrement, générateur de gaz de marée effroyable, se succédant de façon terrifiante. Des villes entières furent anéanties par des vagues colossales hautes de 30 mètres. Anjer, Telok Betung, ainsi balayés par l'onde de gigantesques tsunamis qui transportèrent loin dans l'intérieur des terres des navires de haute mer, noyant tout dans leur fracas épouvantable. Puis, se retirant aussi vite qu'elles s'étaient avancées, elles entraînèrent hommes, femmes, enfants, animaux domestiques, bêtes sauvages, abandonnant derrière elles décombres et cadavres. Les ponces, cette écume de pierre lave visqueuse criblée des bulles de gaz, et les cendres, furent projetés à 80 km de hauteur et firent, emportés par les vents des grandes altitudes, plusieurs fois le tour de la Terre 2 années durant, avant de peu à peu se sédimenter. Les couchers de soleil à Paris, à Sydney, à San Francisco, furent tout ce temps-là splendides.
Arun Taziev, est-ce que je pourrais vous demander ce que vous voudriez faire si vous aviez fait toutes les possibilités?
Je ferais des sondages géologiques, ce qui sont des choses qui coûtent très cher. Bon, je ne pense pas que je voyage, je commence à être un peu rassasié de voyage, mais au contraire, j'irai vivre dans l'un ou l'autre de ces innombrables coins de France que j'adore, en Haute-Provence, dans les Alpes, dans le Languedoc, je ne sais pas où, enfin...
Pour y trouver quoi?
Je voudrais lire, je voudrais avoir le temps de lire, ce que je n'ai jamais. Je voudrais continuer aussi longtemps que mes jambes le permettent à jouer au rugby. Je voudrais étudier au microscope les innombrables roches que j'ai ramenées de tous les voyages et qui sont là en attente. Je voudrais écrire des bouquins à l'aise, raconter non seulement donc des aventures, mais aussi ce qui me passe réellement par la tête quand je vagabonde. J'aime beaucoup les jeunes, je m'entends bien avec eux, j'aime les gosses, et j'aimerais leur passer un petit peu de mon expérience, de ce que j'ai appris peu à peu, aussi bien sur le monde que sur moi-même, que sur les hommes et la façon de s'y conduire. Quoique, on apprend surtout par soi-même, évidemment, mais enfin, tout de même, le peu que l'on peut passer aux autres, ça vaut la peine. J'aimerais faire ça.
Tous les plaisirs du jour sont dans la matinée. Une émission imaginée et réalisée par José Pivin, qui présentait aujourd'hui une matinée avec Arun Taziev. Des extraits des livres de Arun Taziev, L'eau et le feu et Les rendez-vous du diable, étaient lus par Julien Berthaud et Catherine Georges. Prise de son René Cambien, assistant de production Jean-Pierre Collat.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 21 novembre 1959. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la rubrique « Les nuits de France Culture ».